Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez l'émission de la réplique, l'émission du mercredi, un mercredi sur quatre, sur Radio Courtoisie, habituellement. Elle est dirigée par son patron, Bernard Anthony, mais hélas, il ne peut pas être des nôtres ce soir. Il interviendra cependant par téléphone. Mais je voulais vous présenter aussi mes convives, non, mes co-radioïstes qui sont Cécile Montmirail. Cécile, contente de vous voir.
Eh bien, le plaisir est partagé, Jeanne. Bonsoir à tous les auditeurs.
Et à ma gauche, Olivier Figueras, avec qui j'ai des liens autres que professionnels, mais je pense que vous aussi, vous êtes content d'être là.
Oui, bien que je ne sois pas sûr d'être vraiment à votre gauche, Jeanne, mais c'est une question qui pourrait se discuter. Bonsoir, chers amis auditeurs.
Chers amis de Radio Courtoisie, vous savez que cette émission a pour particularité de faire un peu un tour du monde. Aujourd'hui, nous serons davantage en France qu'ailleurs. Nous parlerons cependant de l'Iran, nous parlerons un peu de l'Ukraine avec Bernard Anthony. Nous évoquerons des chefs d'État, de nouveaux chefs d'État sud-américains qui commencent leur mandat avec un chapelet. Ça mérite d'être souligné.
Hâte que vous nous racontiez ça, Jeanne, parce que ce n'est pas courant.
Ce n'est pas courant, ce sera un peu plus tard au cours de l'émission. Mais nous allons également évoquer l'euthanasie, c'est l'actualité brûlante. Nous allons évoquer, surtout avec Cécile Montmirail, l'arrêt de la Cour de cassation sur les allocations familiales. Alors, ce sont nous découvrons une sorte de prise de pouvoir des juges. Ça n'est pas nouveau, mais ça s'accentue pour modifier la réalité française. Et puis, nous parlerons également de la RATP, où on découvre le coût des agressions quotidienne contre le personnel, c'est faramineux. Nous parlerons de la dénatalité, elle s'accentue. Comment la France peut-elle réagir face aux maux qui l'accablent si elle ne croit plus en elle-même? Et puis, bien entendu, nous parlerons également de la griffe. Mais avant toute chose, je voudrais vous signaler que à travers l'affaire Marine, nous parlerons aussi de l'affaire Gollnisch, puisque Bruno Gollnisch a sorti un communiqué important où il a expliqué à quel point toutes les misères faites au Rassemblement National sont partisanes. Alors, un instant, je regarde si Bernard Anthony est arrivé, il est là. Bernard Anthony, êtes-vous en ligne? Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends parfaitement. Je vous entends parfaitement, Jeanne. Je suis à vous.
Voilà. Très bien. Ben Bernard, d'abord, je crois que vous vouliez dire un petit mot à nos auditeurs pour dire que vous regrettiez de ne pas être à Paris aujourd'hui avec nous.
Ben oui, c'est un handicap habituel que j'ai assumé depuis des dizaines d'années. Je ne suis pas parisien. C'est très difficile de n'être pas parisien quand on fait de la politique ou quand on fait le métier que j'ai. Mais là, en l'occurrence, dans cette période de chaleur, eh bien, on m'a fortement déconseillé et j'ai bien fait d'essayer de venir à Paris. J'avais pris un billet, mais j'ai dû annuler ce billet. Vous voyez, j'ai une petite fille qui, elle, a eu 5 heures de retard dans le train qui devait l'amener hier à Toulouse. Donc moi, j'ai pas voulu tenter le diable et je suis là donc dans mon bureau. Je suis navré parce que j'aime beaucoup ces émissions, j'aime être présent dans le studio. Mais Dieu merci, vous êtes là, Jeanne, vice-présidente de la GRIF, je le rappelle, avec d'ailleurs l'autre vice-présidente, Cécile Montmirail. Je suis ravi, finalement, que vous soyez là, toutes les deux, parce que vous êtes à Paris fréquemment et vous me remplacez superbement. Voilà.
Merci, Bernard. Alors, entrons vite dans le vif du sujet, puisque notre temps avec vous est tout de même un peu compté. Nous savons que pour les auditeurs, c'est moins agréable d'avoir des interventions au téléphone, mais vous allez voir, ce sera parfait. Vous vouliez démarrer, je crois, sur quelque chose dont on commence à ne plus trop parler, et pourtant l'actualité s'y prête tellement, c'est la peine de mort.
Oui, parce que finalement, c'est quelque chose qui semble, la revendication pour la peine de mort semble être tombée en désuétude. Or, les adhérents de la GRIF qui liront mon article dans le dernier journal de la GRIF, donc ont pu lire mon article sur la peine de mort, à savoir que j'ai considéré, pour ma part, après maintes réflexions, que pour ce qui est des auteurs des abominations les plus odieuses, eh bien, la peine de mort était un juste châtiment. J'ai rappelé ici, donc, que un homme éminent qui était le père Brudberger, un grand dominicain, mais qu'on appelait aussi l'aumônier de la résistance. Comment le père Brudberger avait écrit un livre intitulé « Nous n'irons plus au bois » qui décrit, et qu'il a écrit par ailleurs, d'ailleurs, oui, à la peine de mort. Pourquoi le père Brudberger a-t-il fait cette campagne en son temps pour la peine de mort? Eh bien, parce qu'il considérait que la peine de mort était la peine juste pour ceux qui étaient des auteurs les plus abominables. Et quand on réfléchit sur l'affaire Liana, sur les abominables meurtres avec torture de Lola, de Philippine, etc. Donc, allô, est-ce
nous vous entendons, Bernard, nous vous entendons.
Bon, très bien. Donc, j'ai moi aussi réfléchi sur cela, parce que on dit, les partisans de l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire du statu quo, considèrent que l'erreur judiciaire est possible et que donc la peine de mort, c'est un risque d'erreur. Non, aujourd'hui, ça n'est plus du tout cela. En vérité, l'erreur judiciaire n'est pas toujours possible. Elle ne l'est que dans l'état d'incertitude les plus rares, les plus limites. Donc, aussi, les partisans, comme moi, du rétablissement du châtiment suprême, s'accordent-ils à ne le voir possible que comme châtiment exceptionnel des crimes à la fois les plus atroces et les plus absolument incontestables. Et c'est ainsi que le père Brudberger, lui, a accompagné jusqu'au bout son vieil ami des corps francs. Les corps francs, c'était ces unités de l'armée française qui combattaient sur le derrière des lignes pendant la guerre de 14-18. Et ensuite, donc, le malheureux Joseph Darnan, qui était un chef admirable de corps francs, grand ami de Brudberger, bien choisi une autre voie. Pendant la Seconde Guerre, par fidélité au maréchal Pétain, il crée la milice et donc le père Brudberger est en total désaccord avec lui, mais il l'accompagnera jusqu'au châtiment suprême. Je conseille aux auditeurs, s'ils trouvent cela dans quelques bouquinistes, d'acheter vraiment le « Oui à la peine de mort » du père Brudberger ou encore donc « Nous n'irons plus au bois ». Donc voilà pourquoi je crois que plus que jamais, la peine de mort doit être dispensée avec beaucoup de circonspection, très rarement, mais c'est le fait de l'édifice judiciaire, alors que l'on voit aujourd'hui que donc un certain nombre d'abominables meurtriers, d'abominables assassins sortent plus vite de prison qu'ils n'auraient dû.
Alors, on peut citer à ce titre, mais pour le Royaume-Uni, un gamin de 14 ans a été tué de deux coups de couteau l'an dernier par un jeune issu de l'immigration turque, pour aucune raison. Le jeune avait 14 ans aussi. Il n'est pas susceptible d'emprisonnement de ce fait. Il sort au bout d'un an parce qu'on ne peut pas le convaincre de crime. Donc oui, il y a quelque chose de très pourri dans nos justices occidentales. S'il y a un contre-exemple, c'est bien celui de l'Iran qui exécute à tour de bras, on pourrait dire. L'Iran qui est sorti finalement de la de l'accord de paix qui avait été signé avec les États-Unis en bombardant des avions commerciaux. Les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran et compte, a dit Donald Trump, y revenir cette nuit. Je crois que vous vouliez dire un petit mot aussi de l'Iran et surtout d'un article de Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui avait été scandaleusement éliminé dans les années à la fin des années 70. Vous vouliez parler de cela, Bernard?
Oui, juste parce que dans le Figaro des 4 et 5 juillet, sous le titre « Iran, on ne négocie pas avec des bourreaux », il y a un excellent article de Reza Pahlavi, du prince Reza Pahlavi, à savoir le fils du dernier Shah d'Iran, abominablement éliminé par les islamistes de l'ayatollah Khomeini. Et j'ai rappelé à cette occasion que la France, que le gouvernement français avait aussi une très lourde responsabilité dans l'accession des islamistes au pouvoir en Iran. On se souvient combien le gouvernement de Giscard d'Estaing avait tout fait pour que l'ayatollah Khomeini puisse passer des jours paisibles à Neuf-le-Château et préparer ainsi cette révolution qui a ensanglanté le monde. Parce que vraiment, là, cette faute du gouvernement français d'avoir permis à l'ayatollah Khomeini de pouvoir faire campagne autant qu'il le pouvait sur le monde entier à partir de Neuf-le-Château, c'était une erreur majeure. Et donc là, dans cet article de Reza Pahlavi, que dit-il notamment, voilà, que, de quoi parle-t-on au fond, d'un pouvoir qui au mois de janvier a massacré près de 40 000 de ses propres citoyens, hein, donc là, Reza Pahlavi de dire on ne négocie pas avec les terroristes, on ne devrait pas non plus négocier avec les bouchers, 40 000 Iraniens ne sont pas morts pour la réouverture conditionnelle du détroit d'Hormuz ou une capitulation du monde libre. Discuter aujourd'hui avec ce régime, c'est lui signifier que ces crimes n'auront pas de conséquences, que la répression est négociable. On voit là qui vise Reza Pahlavi, à savoir ce sont les alternances permanentes de Donald Trump qui a perdu cette guerre finalement. Parce qu'enfin, donc, là il y a encore quelques mois, personne ne songeait donc à l'utilisation du détroit d'Hormuz que les Iraniens peuvent en faire aujourd'hui. Voilà donc, mais je renvoie, on peut le trouver sur le site du Figaro, à cet article de Reza Pahlavi. Voilà.
Vous vouliez poursuivre en faisant un petit point sur la situation en Ukraine?
Oui, donc c'est une situation que nous suivons depuis longtemps. Je vous remercie d'ailleurs, Jeanne, d'avoir préfacé mon livre qui est toujours accessible, à savoir l'Ukraine face à Poutine. Et donc, cette situation en Ukraine qui n'est pas du tout perdue pour les Ukrainiens. Mais là, les Ukrainiens ont été abondamment trahis. Aujourd'hui, ils manquent d'armes, mais ils fabriquent eux-mêmes avec des progrès absolument incroyables. Donc, la situation en Ukraine est à la fois bonne et mauvaise, je dirais. Mauvaise parce que Poutine bombarde des civils, des écoles, des hôpitaux. Poutine est le digne héritier de tous les dictateurs soviétiques, comme on le sait. Il veut à tout prix s'emparer de l'Ukraine, il n'y arrive pas, il a perdu cela, mais il ne gagnera pas cette guerre. Les Ukrainiens se renforcent sans arrêt, mais hélas, cela est au prix de milliers de morts, alors beaucoup plus de morts russes, parce que, faut-il le rappeler, je le dis souvent sur Radio Courtoisie, moi je ne suis évidemment pas anti-russe, mais anti-poutiniste, oui, ô combien, et cela avec mes amis russes, et notamment, quelquefois, je te conseille de fréquenter l'excellente librairie de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, la librairie du cercle Alexandre Solzhenitsyn. Voilà donc pourquoi je crois qu'il est important, parce que ne l'oublions pas, l'Iran, l'abominable Iran de l'Ayatollah Khomeini et la Russie de Poutine ont fait un bloc. Donc, depuis des années, il y a une complicité très grande, une alliance totale. Mais c'est, il n'y a pas d'ailleurs qu'avec l'Iran, mais il y a aussi la Corée du Nord, faut-il le rappeler. Il faut rappeler aussi l'alliance avec la Chine. La Chine populaire. Voilà donc pourquoi je pensais qu'il faut aider à la fois les Ukrainiens et nos amis iraniens qui se rencontrent. D'ailleurs, je peux en témoigner, il y a aujourd'hui une grande solidarité entre les combattants de la liberté ukrainienne et les combattants de la liberté iranienne.
Et vous parlez évidemment des opposants au régime des Mollahs. Oui, pour revenir deux secondes...
Bien sûr Je suis à vous, pardon.
Oui, je voulais juste dire, Poutine continue d'avoir bonne réputation dans certains milieux de droite, mais j'essaie de suivre ces affaires-là d'un peu près, et j'ai notamment écrit récemment un article indiquant que les mouvements socialistes et communistes du monde entier se sont retrouvés à Moscou pour un grand meeting. Je crois que c'est un papier que j'ai dû publier également dans Reconquête et un peu différemment dans Réinformation TV. On y fait de la glorification de l'Union soviétique, de ses réussites, de tous les mensonges qui ont été écrits à son encontre. Je crois que lorsqu'on aborde ce sujet qui pour beaucoup est épineux, il faut regarder aussi ces faits-là qui permettent d'éclairer d'une manière un peu différente les choix de Poutine en Russie. Pour finir, Bernard, le dernier sujet que vous souhaitiez aborder, c'était la décision prise hier par la Cour d'appel de Paris à l'égard du Rassemblement national et de ce qu'il est convenu d'appeler le scandale des assistants parlementaires. Pas si scandaleux que ça, et je crois que vous avez quelques mots à dire là-dessus, et spécialement sur la réaction de Bruno Gollnisch et son communiqué sous les yeux. Dites-moi.
Oui, ceci... Pas seulement parce que Bruno Gollnisch est un vieil ami que j'ai notamment fréquenté au Parlement européen, mais parce que je ne voulais pas reprendre là. C'est totalement impossible en quelques minutes. Tout ce dont les médias ont été en bruit ces dernières heures. J'ai naturellement suivi avec la plus grande attention ce qui se passait hier à la Cour d'appel de Paris, mais j'ai lu aussi avec la plus grande attention et en approuvant tout à fait la manière dont il a réagi, le communiqué de Bruno Gollnisch. Je ne le lirai pas, ça serait trop long, mais j'invite les auditeurs qui le souhaiteraient d'aller soit sur le blog de Bruno Gollnisch, ils le trouveront facilement, soit sur le mien, ils le trouveront encore plus facilement. Sur le blog de Bernard Anthony, j'ai publié avec aucun plaisir le texte de Bruno Gollnisch sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et les procédures judiciaires dirigées contre les députés et assistants RN. Donc je ne peux pas développer cela, mais je pense que les auditeurs auront un grand plaisir à éclairer la situation qui est celle aujourd'hui du Rassemblement national par rapport à Marine, bien sûr, mais il n'y a pas eu que Marine de condamner. Il y a donc eu aussi, quoique moindrement, lui aussi, Bruno Gollnisch et encore Louis Alliot et d'autres encore.
Alors je pense qu'on peut en dire quelques mots, Bernard. Cet arrêt de la Cour d'appel, dit Bruno Gollnisch, est une décision d'autant plus choquante qu'elle frappe des élus et des assistants qui n'ont en rien enfreint les règles du droit et de la probité. Alors Bruno Gollnisch, on le connaît, c'est un homme délicieux d'une part, mais en outre un homme d'une grande honnêteté intellectuelle et d'une grande...
Il n'a évidemment pas détourné un seul centime. J'ai été pendant plusieurs années au Parlement européen, donc avec lui, mais je peux témoigner que s'il y a bien quelqu'un qui est totalement incapable de la moindre action de détournement de fonds publics ou de détournement de fonds privés, c'est bien Bruno Gollnisch. Il réagit admirablement. Il rappelle deux mots quand même que l'émission confiée à ses assistants. Moi, j'étais parti donc depuis quelques années quand ces enquêtes ont été diligentées, relevées exclusivement du libre choix des députés. Aucun texte législatif ne les interdisait. Les débats ont montré qu'il n'y a eu aucun emploi fictif. Tous les assistants ont travaillé avec conscience et dévouement de façon publique, non dissimulée.
Oui, c'est ce qu'écrit Gollnisch.
Oui. Voilà, Bruno continue. Tout ceci était conforme à l'usage général du Parlement européen, connu de l'administration parlementaire et validé par elle. Les poursuites intentées venaient d'adversaires haineux, au premier rang desquels l'ancien président socialiste allemand Schulz, dont le comportement en matière d'assistance parlementaire était 100 fois plus critiquable que celui qui est reproché donc à Marine Le Pen et à Bruno Gollnisch. Bruno écrit encore donc les poursuites intentées enfreignent le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, rappelé pourtant dans cette affaire par les plus hautes autorités de droit constitutionnel de notre pays, les professeurs Avril et Gittel. Et M. Jean-Éric Schöttl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Donc là, le Parlement européen n'a évidemment subi aucun préjudice. Pas un centime n'a été détourné par les députés européens qui étaient jadis ceux du Front National et ensuite du Rassemblement National. Et là, donc, Bruno Gollnisch écrit encore qu'il se réserve maintenant les voies de droit qui subsistent encore dans un pays qui mérite chaque jour, hélas, de moins en moins le nom de démocratie quand on voit comment cette affaire a été traitée.
Absolument, Bernard. Alors, le résultat des courses, c'est tout de même que nous nous orientons vers une candidature de Marine Le Pen, elle l'a dit hier soir.
C'est fait. Et c'est fait. Marine Le Pen a annoncé sa candidature.
Voilà. Donc, l'affaire est quand même partiellement réglée parce que les juges ont essayé de ménager la chèvre et le chou, de conserver cette condamnation lourde, très lourde, pour des faits dont Bruno Gollnisch montre qu'ils ne sont pas délictueux, ou affirment en tout cas qu'ils ne sont pas délictueux, et risquer une réaction qui serait finalement tellement favorable à la victime injuste d'une condamnation judiciaire qu'elle lui porterait plutôt chance, on peut dire ça.
C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Et donc, là, ensuite, donc, nous allons suivre, puisque Marine Le Pen a annoncé hier qu'elle se pourvoyait en cassation aussi. Mais enfin, je préférerais avoir beaucoup plus de temps pour commenter cela et que ce soit plutôt fait par un avocat compétent, comme il y en a, pour travailler pour Bruno Gollnisch notamment. À la Drif aussi, on connaît des avocats compétents qui pourraient bien commenter à l'occasion cette affaire-là.
Qui est commentée dans tous les sens et avec toutes les interprétations judiciaires possibles, mais enfin, il semble acté que Marine puisse se présenter. Bernard Anthony, je vous remercie infiniment d'avoir pris du temps pour être quand même avec nous dans le... pas dans le studio directement, mais via les ondes.
Je suis avec vous de cœur surtout, et avec les auditeurs, je suis avec vous de cœur, et je suis navré de n'avoir pas eu un moyen de locomotion plus rapide, mais je n'ai pas détourné de fond, et je n'ai pas d'hélicoptère à ma disposition pour arriver très vite à Paris.
Voilà. Eh bien, et voilà. Merci beaucoup Bernard.
Merci Olivier, et merci aux auditeurs.
Je passe immédiatement à la chose peut-être la plus importante de cette émission, à savoir le Bobino. C'est important parce que Courtoisie a besoin de vous.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Vous avez bien entendu, chers auditeurs de Radio Courtoisie, il faut soutenir Radio Courtoisie parce que de votre soutien dépend la richesse et la diversité de cette radio. Nous allons poursuivre sur le dossier Marine. Olivier Figueras, quel effet vous a fait, vous qui aimez tellement le droit, c'est un peu ironique, quel effet vous a fait cette procédure et tout ce qui s'en est suivi?
Alors, chère Jeanne, puisque vous me provoquez, je vais revenir sur cette question de droit. Vous savez que je ne suis pas très juriste et que je me perds souvent dans ces arguties, mais je note que depuis 24 heures, on nous dit tout et l'inverse de tout sur la question. Alors je ne doute pas que les vrais juristes soient capables de sortir des ornières qui sont celles que nous entendons depuis 2 jours, depuis hier surtout, c'est quand même un peu compliqué de comprendre de quoi il retourne sur le plan purement juridique. Sur le plan judiciaire, pour descendre d'un degré, c'est un peu plus simple. Il me semble que ce que Marine a annoncé hier, c'est un ticket gagnant. Parce qu'on nous a fait depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois, tout un cinéma sur une opposition entre Bardella et Marine Le Pen. On peut supposer que Jordan Bardella aurait été heureux de conduire lui-même la conquête du pouvoir l'an prochain pour la présidentielle. Je ne sais pas s'il faut retenir que son intention était de couper l'herbe sous le pied, si je puis dire, à Marine Le Pen. Manifestement, ses dernières déclarations montrent bien que la situation présente, il l'a fait sienne. Donc on est parti pour une histoire, si cela se fait, où Marine Le Pen serait présidente et Jordan Bardella Premier ministre. Bon, nous verrons bien ce que les Français en décideront, puisque la justice a eu l'air de louvoyer dans cette affaire. On ne sait pas finalement si les politiques qui parfois retors qui nous gouvernent, je dis parfois, mais j'ai tendance à trouver que parfois est un gros parfois, s'ils préféraient que Marine se présente ou ne se présente pas. On nous a sorti des sondages pour nous expliquer que Jordan Bardella était en définitive beaucoup mieux placé, ou en tout cas mieux placé que Marine pour l'emporter. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est, je me méfie toujours des sondages, surtout quand les différences sont aussi minimes que celles qu'on nous a présentées, mais on a l'impression que jusqu'au bout, et dans les interprétations qu'on nous sert depuis hier, on hésite à savoir si ce serait plus intéressant que Marine se présente ou qu'elle ne se présente pas, si ça favoriserait davantage l'élection présidentielle dans un sens ou dans un autre. Je crois qu'il faut attendre l'année prochaine pour avoir tranquillement la réponse.
Au sujet des sondages, alors il se trouve que j'apprécie assez les petits films d'un nommé Fabrizio Buccella, Alors, je suis peut-être en train de dire une bêtise. C'est un physicien, professeur de physique, plus exactement, en faculté, en Belgique. Et il fait des shows pendant tous ses cours. Et il fait également des shows à la radio, puisqu'on s'est aperçu qu'il avait un certain talent, pour expliquer la physique. Et dans un récent petit film, il dit que les sondages, en fait, ne valent rien, même pas comme photographie. C'est... d'un instant, ça ne nous dit absolument rien sur ce qui va se passer. Et à la limite, un sondage qui est fait quelques jours, voire quelques heures avant, peut être significatif. Et c'est vrai qu'on a vu énormément d'erreurs de sondage. Il dit que ça ne vaut rien. Alors, il avance des tas de raisons mathématiques que je ne vous dirai pas, mais j'ai été frappée par une chose. Il a dit que le problème des sondages, c'est qu'ils paraissent scientifiques parce qu'ils sortent des chiffres. Et des chiffres parfois à la virgule près. Et j'avais l'impression d'entendre Jean Madiran qui disait vraiment, strictement, exactement la même chose. Il parlait de la magie de la science, la magie des chiffres à qui, devant lesquels on s'incline parce que ce sont des chiffres, alors que ce ne sont pas forcément des vérités qu'on nous dit avec ces chiffres. Et voilà, donc ce petit mot, il n'empêche que l'actualité... fait quand même penser que le Rassemblement national se trouvera plutôt bien de pouvoir se présenter et que, comme l'a dit Marine Le Pen hier, ce ticket qu'elle formera, qu'elle annonce vouloir former avec Jordan Bardella comme Premier ministre pourrait bien être un ticket gagnant. Qu'en pensez-vous, Cécile Montmirail ?
Alors d'abord, j'ai écouté Marine Le Pen hier face à Gilles Boulot, que j'ai trouvé d'ailleurs assez agressif et revenant sans arrêt sur les mêmes questions. Et je l'ai trouvé assez flegmatique, Marine Le Pen. Elle avait un joli sourire, elle avait l'air extrêmement calme face à l'agressivité de M. Boulot et elle répétait toujours en fait le même discours aussi en réponse aux mêmes questions en disant « je suis innocente et je le prouverai, en tout cas j'essaie ». D'utiliser toutes les voies qui me sont permises. Et il en reste une, donc je vais de nouveau la saisir. Je trouve un peu dommage qu'elle ait attendu la fin de son interview pour expliquer qu'en fait, il existe deux autres affaires sur exactement les mêmes faits qui concernent à la fois LFI et aussi le MoDem, et que la justice est visiblement moins prompte à poursuivre les autres sur les mêmes motifs qu'elle ne l'est à poursuivre le Rassemblement national. Et donc, déjà, je crois que ça, c'est un point qu'il faut souligner. Elle l'a dit quand même à la fin. Je rappelle que pour exactement les mêmes motifs, LFI et le MoDem sont poursuivis, mais n'ont pas les mêmes rigueurs de jugement. Donc ça, c'est important. Et je crois justement que c'est qu'il faut qu'on ait toujours à l'esprit dans ces grandes batailles qui se mènent, c'est que la justice a toujours été une justice politique. En réalité, le droit donne des règles. Alors, les lois sont évidemment votées par le Parlement, c'est déjà quelque chose, mais ensuite, elles sont appliquées et différemment en fonction des juges. On se demande parfois, les jeunes se demandent comment il peut y avoir un renversement de jurisprudence sur la base des mêmes lois, mais c'est parce qu'on va évoquer des principes de droit qui vont permettre une décision et qui vont donc évoluer en fonction de soit qui tient le pouvoir, soit des évolutions de la société. Et donc là, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement un ennemi dans dans tout le camp national. Et ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun intérêt à ce que le pouvoir leur échappe. Et donc, ils vont habiller d'un discours une bataille qui est très profonde et qui oppose, en fait, ceux qui sont pour la déliquescence de notre pays, qui la mettent en œuvre, d'ailleurs, depuis, elle a dit 30 ans, mais beaucoup plus de 30 ans, puisqu'ils ont petit à petit vendu, alors là c'est pour les 10 dernières années, nos fleurons industriels, ça c'est les affaires qui ont été menées par Emmanuel Macron, mais bien avant on a jeté l'autorité, l'éducation nationale, la justice, évidemment les lois désastreuses sur la famille qui aboutissent à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'effondrement de notre pays que chacun constate et qui a été souligné par Marine Le Pen hier. Donc oui, les Françaises et les Français vont avoir un choix important à faire. Il va y avoir une bataille féroce où les uns et les autres vont essayer de discréditer le camp national qui espère le redressement français. Et dans cette bataille, on a bien vu que les tricoteuses, les avant-gardistes, ce sont bien évidemment les troupes de LFI qui se sont mis aujourd'hui même sur la route de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui étaient à la flèche dans la Sarthe et qui n'ont pas pu continuer leur chemin alors qu'ils allaient à la rencontre des électeurs. Et donc même si les juges ont laissé cette possibilité à Marine Le Pen de se présenter, eh bien il va y avoir partout sur le territoire des troupes de gauchistes pour l'empêcher d'aller à la rencontre des Français. Pourquoi ? Parce qu'ils savent bien que les Français les attendent et que lors des dernières élections, Marine Le Pen et Jordan Bardella et puis l'ensemble des troupes, ils ont sillonné la France profonde, la France des périphéries aussi, mais pas que, et que cette démarche d'aller à la rencontre des Français a payé. Et donc ils savent qu'il faut les empêcher d'aller à la rencontre des Français, et c'est ce qu'ils essaient, et ce qu'ils ont commencé de faire. Il faut, je pense, rester très calme, comme l'a fait Marine Le Pen hier, mais être ferme dans la bataille. Voilà, ce matin, cet après-midi, ils étaient déjà sur le terrain, et c'est ce qu'il va falloir faire pendant les prochains mois.
Alors, oui, j'étais très frappée par le fait que l'arrêt de la Cour d'appel est délibérément assorti l'inéligibilité d'une peine déjà accomplie par Marine Le Pen depuis sa première condamnation. Autrement dit, 15 mois, c'est fait, c'est bouclé. Le reste est sous condition, est une peine suspendue.
De sursis.
Un sursis, pardon, mais je ne trouvais pas le mot, merci Cécile. Donc, en effet, il y a quand même eu une certaine, est-ce qu'on peut appeler ça une peur des juges d'aller trop loin face à un mouvement qui, on en pense qu'on veut, mais qui a démontré jusqu'ici qu'il est capable d'emporter l'adhésion d'une proportion non négligeable des électeurs français.
Ne croyez-vous pas, Jeanne, qu'il y a derrière une volonté d'assimiler, parce que j'ai entendu ça aussi hier et aujourd'hui, Marine Le Pen au mouvement trumpiste, où elle serait acculée par la justice, par des condamnations, et que, elle essaierait dans une course effrénée de se faire élire pour se laver ou échapper à des condamnations. J'ai entendu ce parallèle qui est nul et non avenu, ça n'a strictement rien à voir. Mais ça fait beau et ça permet d'emporter les masses, de faire du buzz sur les réseaux sociaux, parce que évidemment tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé avant la campagne électorale américaine, et puis des suites, que la façon dont Donald Trump lui s'est battu. Je crois qu'il n'y a pas de comparaison possible, mais quand même ça marche. Voilà, ça permet et il me semble, moi, que je ne suis pas sûre qu'ils aient eu peur de se confronter au peuple. Moi, je pense qu'ils ont plutôt une façon, dans leur façon de penser, de se dire, ce sera plus facile de la discréditer et d'empêcher l'accession au pouvoir.
C'est possible, Cécile Montmirail. Moi, j'avoue que, pour passer au sujet suivant, qui est l'euthanasie, qui nous occupe quand même depuis que le 30 juin, l'Assemblée nationale a adopté un texte très légèrement adouci par rapport à ce qu'il était avant, mais qui reste peut-être le texte d'autorisation de l'euthanasie le plus délirant du monde entier. On en dira un mot. Mais j'ai été frappée quand même que le Rassemblement national, qui a certes apporté le plus de voix contre ce projet à l'Assemblée nationale, 103 élus RN ont voté contre, il a tout de même apporté 14 voix au projet. Est-ce que c'est ça, un mouvement national? Olivier Figueras, voulez-vous dire un petit mot de cela et de l'euthanasie en général?
Écoutez, je ne sais pas si c'est cela, un mouvement national. Je serais bien en peine de l'affirmer ou de l'infirmer. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes tellement loin, si nous regardons la société française. Évidemment, quand nous sommes tranquillement en train d'en discuter, on a peut-être une autre vision, mais nous sommes tellement loin au niveau de la société française, de ce que serait normalement un pays qui respecterait un minimum les règles, quelles qu'elles soient. Cécile parlait tout à l'heure des militants LFI qui empêchaient Marine Le Pen d'approcher les Français physiquement sur le terrain. On n'ose même pas imaginer ce que ce serait si c'était Jean-Luc Mélenchon qui risquait d'être empêché de faire campagne et que les militants RN se mettent sur le terrain pour l'empêcher d'aller voir les Français. Tout le monde crierait au scandale. Il y a une espèce de vision aujourd'hui qui fait que on est bien obligé de se contenter d'une espèce d'équilibre qui n'est pas exactement ce que nous aimerions avoir. Mais si on considère les questions d'euthanasie comme on a considéré autrefois celles d'avortement, pour la plupart des gens que nous croisons dans la rue, quand nous sortons dans la rue, il n'y a même pas de question.
Ou en tout cas, on peut en discuter librement. Peut-être bien que non.
Chacun fait ce qui lui plaît, et du moment qu'on ne vient pas m'embêter, tout va bien. Je crois que, pour ma part, en définitive, j'ai plutôt été agréablement surpris de cette proportion de députés Rassemblement National contre l'euthanasie. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi net, vu certaines fois précédentes où ils avaient eu des votes qui m'avaient paru moins national, pour faire court.
Cécile Montmirail.
Oui, c'est vrai que cette proportion est plus importante que la dernière fois, me semble-t-il, sur l'avortement.
Sur l'IVG dans la Constitution, oui.
Ça a été franchement
assez massif tout de même au Rassemblement National.
Donc ce qui est une bonne nouvelle, je note d'ailleurs que ceux qui ont voté en faveur sont ceux qui sont les plus exposés médiatiquement. Il me semble que Jean-Philippe Tanguy a voté pour. Il y a aussi
Sébastien Chenu.
Donc ce qui montre, à mon avis, que quand même, il y a des mouvements pour essayer de pénétrer le mouvement national et le faire dériver. C'est sûr que l'euthanasie est une très très mauvaise loi et qu'elle marque un basculement de notre civilisation. Un peu plus profond, évidemment.
Un peu plus profond par rapport à ce qu'il est déjà.
C'est sûr que la loi sur l'avortement est déjà un choc énorme et un basculement. Il y a ensuite le combat pour Vincent Lambert, qui a là aussi été une étape atroce dans la décadence de notre pays, et l'euthanasie, c'est là une nouvelle étape, mais qui nous enfonce un peu plus. Alors, il y a plusieurs aspects face à cet abominable projet de loi. D'abord, moi, je constate autour de moi, puisque je suis entourée de personnes âgées qui sont soutenues aujourd'hui par leur famille, qui ont cette chance, et qui ont peur. Qui ont peur que, dans un hôpital, à l'occasion d'une révision, d'un rendez-vous médical, disons, de routine, elle se retrouve abandonnée. Alors, bien sûr, c'est une peur qui n'est pas rationnelle, mais quand même,
on y reviendra, Cécile.
Oui, mais ça en dit long sur l'état d'esprit. Je me suis retrouvée, moi, dans cette situation où j'ai reçu un coup de fil me disant que ma mère était tombée, qu'elle était transportée à l'hôpital. J'ai eu peur. J'ai tout quitté parce que je me disais, ils vont la mettre dans un coin et puis ils s'en occuperont pas parce qu'elle est âgée. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les Français et les Françaises qui aiment leurs parents sont dans cette inquiétude et les parents eux-mêmes sont dans cette inquiétude. Et ça, c'est très grave. J'ai aussi l'occasion de m'occuper de personnes handicapées et qui sont elles aussi dans cette inquiétude fondamentale en se disant, mais le regard va-t-il changer sur nous ? Parce que, bah oui, nous sommes peut-être moins productifs, nous avons une certaine dépendance, et est-ce qu'on va considérer que notre vie est utile ou suffisamment agréable pour être vécue ? Et ça, c'est pas bien de distiller dans la société française ce venin qui est celui de la suspicion ou de, pour certains de nos compatriotes, de se dire « mais peut-être est-ce que je suis trop et que je coûte trop cher ?» C'est très mauvais, ça. Ça crée des dissensions au sein de la communauté de notre pays. Et, ça, c'est...
et même dans les familles. Et...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que des parents qui, bon, bah, c'est le fait de la vie, les années s'enchaînant, eh bien, on est de moins en moins en forme. C'est la vie qui veut ça. Et à un moment donné, on se pose la question, voilà, est-ce que je ne suis pas un poids pour les autres ? Et ce n'est pas normal de se poser cette question, parce qu'on doit accompagner ses parents jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs souvent des moments importants. Il y a des documentaires qui paraissent sur la fin de vie et qui montrent combien, dans ces derniers moments de vie, eh bien, la communication est importante et va ensuite permettre de faire mieux le deuil et donc de renaître après la disparition d'un être cher. Et tout ça peut être supprimé par un coup de piquouse. Et on ment aux Français en disant que ce serait plus digne de faire ça. Et alors d'ailleurs, je voudrais souligner une chose, que j'ai essayé de regarder ce qu'en disait ChatGPT, figurez-vous, pour savoir quelle était la réponse. Et
donc, c'est l'oracle.
Oui, parce que la plupart des Français, j'ai appris désormais, lorsqu'ils doivent prendre une décision, posent d'abord la question à une intelligence artificielle, c'est la plus connue, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé celle-ci. Alors, j'ai dit, mais voilà, quels sont les arguments des détracteurs de la loi sur l'euthanasie ? Alors, il y avait des arguments, je dois dire qu'ils étaient bien rangés. Ils disaient, oui, mais voilà, mais ceux qui sont pour disent ça. Et ensuite, j'ai fait l'inverse. Et donc là, il n'y avait pas ceux qui étaient contre.
Voilà. Mais bien sûr.
Et donc, on voit bien qu'il y a quand même des outils qui sont utilisés et qui sont quand même manipulés. Voilà. Donc, je l'ai fait à plusieurs reprises. J'ai demandé aussi, par exemple, quelle est la position de la Fondation Le Jeune, quelle est la position de la Fondation de l'aide active à mourir. Et les réponses sont plus équilibrées quand il s'agit d'être contre que quand il s'agit d'être pour. Et donc ça, c'est inquiétant aussi. Surtout quand ce genre d'outils se développe.
Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, l'émission de la réplique. C'est moi qui la dirige aujourd'hui, Jeanne Smits, en l'absence de son patron Bernard Anthony, que nous avons entendu en première partie. Je suis avec Cécile Montmirail, qui est journaliste, tout comme Olivier Figueras, journaliste aussi. Et je voulais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, Cécile Montmirail. Vous avez dit que les gens ont peur. Et il se trouve que s'il y a quelqu'un qui a vraiment travaillé à fond sur la loi d'euthanasie, on l'appelle la loi sur l'aide à mourir, c'est un euphémisme tout à fait à la mode, puisque c'est exactement le même qui est employé au Royaume-Uni, où on en est dans une situation à peu près similaire, avec une montée de l'opposition de la part des médecins, de la part des élus même, et puis un forcing, pardon Radio Courtoisie, mais c'est vraiment ça, pour faire adopter une loi qu'on appelle sur l'aide à mourir, et qui est en réalité, on ne veut pas dire les mots, sur l'euthanasie et le suicide assisté. En France d'ailleurs, c'est avant tout sur le suicide assisté, puisque l'euthanasie, c'est-à-dire l'administration d'un poison mortel, ne sera fait par une tierce personne que lorsque le candidat à la mort choisi, entre guillemets, ne sera pas capable d'avaler lui-même son poison. Mais Grégoire Pupinck, du Centre européen pour la justice et le droit, qui a déjà parlé sur cette antenne, mais je voudrais vraiment rappeler ce qu'il a dit. Il a publié aujourd'hui, sur, ou hier, sur son compte X, vraiment toutes les tous les aspects les plus dangereux de la loi française. Alors, je peux vous dire que, ayant regardé vraiment de très près les législations néerlandaises, belges, même canadiennes, il y en a beaucoup qui autorisent de tuer son prochain, de tuer son patient dans des conditions dont on assure qu'elles sont tout à fait strictes et dont on s'aperçoit qu'elles le deviennent de moins en moins, et bien tout ça, ça paraît encore extraordinaire par rapport à ce qui est décidé en France en ce moment. Le texte tel qu'il a été établi par l'Assemblée nationale en troisième lecture permet en effet qu'un seul et même médecin décide de toute la procédure d'euthanasie. Ainsi, souligne Grégoire Pupinck, il n'y a aucune exigence formelle quant à l'expression de la volonté de mourir. On ne vous demande pas de signer un papier, comme cela se fait dans d'autres pays. Vous pouvez dire ça entre deux portes à un médecin qui n'est même pas forcément le vôtre. Et il suffit que ce médecin affirme que la personne en question veut mourir pour que la procédure soit engagée. En fait, c'est terrifiant. Ce médecin n'a pas besoin de connaître le patient, il peut le rencontrer pour la première fois le jour où ce patient dit « Cher docteur, j'en ai assez, je souffre trop, je veux mourir ». Et puis, très rapidement, le médecin peut donner sa réponse. Il y a un délai, je crois, de 15 jours maximum, mais il peut aller très vite. Et après, le pauvre patient, il a exactement 2 jours pour réfléchir. 2 jours, 48 heures. Après quoi, le médecin peut passer à l'acte. Alors, bien sûr,
quand on fait un achat, c'est 15 jours minimum, et quand minimum, c'est sur Internet.
Mais bien sûr. Donc, on a vraiment l'impression que des euthanasies peuvent être imposées sur le patient. L'euthanasie est possible sur les personnes sous tutelle et sous curatelle, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas en mesure, justement, de faire un achat sur Internet ou d'écrire un chèque. Ils ne peuvent pas signer un chèque, mais ils peuvent dire entre deux portes à un médecin qu'ils ne connaissent pas « Je veux mourir et être mort dans la semaine qui suit ». Il suffit, rappelle Grégoire Pupinck, que le discernement ne soit pas gravement altéré lorsque la personne est supposée exprimer sa demande de mort. Mais, gravement, vous êtes sous tutelle, vous êtes sous curatelle, mais ça n'est pas si grave que ça. C'est quand même un flou absolument criminel, on peut le dire. Grégoire Pupinck souligne également qu'une personne ayant un trouble psychique grave, tel qu'une tendance suicidaire, n'est pas du tout exclue du processus. Là où, jadis, quand vous aviez ce type de maladie, puisque c'est véritablement une maladie, on vous soignait, on essayait de vous dissuader, on essayait de vous apporter une aide, tout cela ne sera plus nécessaire. Donc, on arrive vraiment à une loi d'euthanasie qui va à marche forcée, non seulement dans son processus législatif, puisqu'on a vu le gouvernement faire tout ce qu'il peut pour que cette loi soit adoptée, la dernière instance sera l'adoption contre la volonté du Sénat et sur la seule foi des voix des élus, des députés. Normalement, ce texte sera voté le 15 juillet prochain parce que le gouvernement l'aura voulu. Donc, on est dans une situation où toutes les garanties sautent, toutes les garanties que les d'autres pays ont inventées. Alors, on sait qu'elles sont fragiles, on sait qu'elles ne sont absolument pas suffisantes. On sait que le fait de tuer quelqu'un, ça n'est pas un problème de « c'est assez bien encadré, ce n'est pas assez encadré ». Tuer quelqu'un délibérément va contre la loi qui devrait gouverner chacune de nos vies. Non, mais là, on enlève toutes les barrières, ou presque, pas toutes, mais presque, d'un seul coup en faisant voter cette loi. Est-ce que vous saviez que la consultation que fait le médecin de confrère ou d'aide-soignant, parce que ça fait partie de la loi, pour savoir s'il doit passer à l'acte, eh bien, ça peut se passer en ligne, par visio. Est-ce que vous saviez que les proches d'une personne qui veut se faire euthanasier n'ont pas le droit d'être informées? Elles n'ont même pas le droit de faire un référé devant un tribunal administratif pour contester une décision d'euthanasie. Et un médecin, le médecin ou l'infirmier, alors le délit d'empêchement d'accès à l'aide à mourir a sauté, et fort heureusement dans la loi, mais le médecin ou l'infirmier qui va passer à l'acte, il doit veiller à ce que l'entourage de la personne, objet de l'euthanasie, n'exerce aucune pression pour lui faire renoncer à l'administration de la substance létale. Ce serait quand même dommage d'avoir fait une prescription de poison et qu'elle ne serve pas. Enfin, on en est presque là. Bon, je vous passe le reste. Je ne passerai pas sur la clause de conscience, puisque les établissements privés, eux, en particulier en religieux, ne peuvent pas, en tant que tels, bénéficier d'une objection de conscience. Et s'il n'y a personne dans cet établissement qui veut mettre à mort une personne qui l'a ou qui l'aurait demandé, eh bien, ces établissements sont obligés d'ouvrir leurs portes à l'équipe, l'équipe de l'homme en blanc muni de son poison ou de sa seringue. C'est vraiment l'avenir de toutes ces institutions, de ces établissements où les patients sont, les vieilles personnes sont entourées, les EHPAD, des petites sœurs des pauvres par exemple, ce sont tous ces établissements-là qui sont aujourd'hui en grave danger. Je vois Olivier Figueras réagir.
Oui, je pensais à la peur. J'ai beaucoup aimé, Cécile, que vous parliez de peur irrationnelle. À une époque, je me serais dit, y en a-t-il d'autres ? Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, si je me permets de parler un instant de mon cas, puisque j'ai une certaine habitude des hôpitaux, d'ailleurs on devrait me donner une carte de fidélité un jour, ça
pourrait
servir.
Vous avez même une certaine habitude de la mort, disons-le clairement.
Eh bien, je ne peux pas dire que j'ai peur de la mort, ni de la souffrance, mais comme c'est devenu quelque chose d'obligatoire de ne pas aimer la mort et de ne pas aimer la souffrance, maintenant j'ai une peur, et j'allais dire une peur raisonnée, à certains moments, de me rendre dans des hôpitaux en me disant « mais moi qui suis malade, c'est une assimilation, la maladie avec les personnes âgées, enfin ce sont les cas considérés comme étant susceptibles d'intéresser la piqûre. J'entre là-dedans, si je me trouve face à un fou furieux qui pense que c'est bien comme ça, qu'est-ce qui va l'en empêcher ? Autrefois, les fous furieux qui voulaient tuer leur prochain, au moins, ils avaient le regard de la société. Ils l'avaient peut-être fait, mais le regard de la société faisait que peut-être ils se sentaient un peu retenus. Aujourd'hui, le regard de la société, c'est que, bon, somme toute, c'est normal. Alors, on est dans une société où il y a l'avortement parce qu'on n'est pas sûr que ce soit un être humain avant la naissance. Maintenant, les malades et les vieux, on n'est pas sûr que ce soit non plus des êtres humains, puisque on s'en débarrasse aussi bien. Je ne sais pas quand nous sommes des êtres humains, seulement quand nous disons « ben tiens, j'ai envie de m'amuser et de faire la fête ».
Oui, c'est l'homo festus, en fait. Une fois qu'on ne peut plus faire la fête, finalement, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue.
Alors, il faut redéfinir le mot fête.
Oui, c'est ça, peut-être.
Peut-être. Moi, la fête, pour moi, c'est d'être dans ma bibliothèque et de lire.
Alors, je voudrais ajouter un mot sur cette question de l'euthanasie, Jeanne, parce que j'ai été confrontée à quelqu'un dans ma vie professionnelle qui m'a parlé de la façon dont il avait obtenu l'euthanasie pour sa maman, ce qui m'a horrifiée, vous en doutez, et qui était donc allé à l'étranger pour ça, et qui me disait, voilà, alors c'est quelqu'un qui est franc-maçon, hein, et qui m'a dit, tu vois, c'est beaucoup mieux parce que moi, j'ai les moyens de faire ça, et les autres ne pourront pas, et grâce à la loi, et ben, ceux qui n'ont pas les moyens pourront le faire. En tout cas, nous, c'est notre combat.
C'était la même chose pour l'IVG.
Voilà. Et donc, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les personnes qui ont les moyens vont pouvoir accompagner leurs parents. Mais ceux qui sont pauvres, ils n'auront pas le choix. Ils ne pourront pas se battre. Ils ne pourront pas obtenir justice. Et c'est toujours la même chose dans ces discours permissifs sur toutes ces lois qui vont contre la loi naturelle. Ils renversent l'argument. C'est-à-dire que pour eux, c'est soi-disant l'égalité pour ceux qui ne sont pas riches, mais ce sont les pauvres qui vont payer ça très très cher, comme toujours. Comme l'explosion de la famille, comme l'avortement, c'est toujours les pauvres qui s'en prennent plein la tête, hein, dans ces lois. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été souligné bizarrement pendant la Révolution française. Et c'était des révolutionnaires qui disaient ça en disant si il y a un grand désordre, eh bien c'est toujours les pauvres qui paient, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle. Et c'est vrai. Et c'est vrai aujourd'hui, au bout de ce processus révolutionnaire que nous vivons depuis 200 ans, eh bien ce sont les gens en bas de la société qui aujourd'hui en payent le prix le plus fort. Et ce sera la même chose pour l'euthanasie.
Et en même temps, si je puis employer cette expression, ils le feront en équilibrant le budget de l'État. Il faut le dire clairement.
C'est fait pour ça.
C'est la dernière année de vie qui coûte le plus cher, avec les soins. Mais si on comptabilise tout, à savoir les frais de santé, les dépenses liées à la vieillesse, et les retraites qui continuent d'être payées pendant cette dernière année-là, avec une population qui vieillit fortement, on va passer tout de ensuite à la natalité en France qui continue de s'effondrer, eh bien, avec cette population qui vieillit, on sait, la Fondapol l'a fait le calcul, l'euthanasie l'a appliquée comme on peut envisager qu'elle le sera, économisera 1,4 milliard d'euros par an. 1,4 milliard. On ne crache pas dessus, on préfère en effet que se passer de cette population qui coûte cher, et ce d'autant plus qu'il y a de moins en moins de cotisants. Je sais, Cécile, vous vouliez parler de la dénatalité ce soir.
Excusez-moi, mais oui. 1 milliard, quand on voit la vitesse à laquelle notre dette progresse, c'est pas grand-chose.
Mais
il pourrait peut-être cesser certaines choses qui coûtent plus cher que ça.
Oui, c'est sûr. Jeanne, avant de passer sur la dénatalité française qui effectivement se poursuit, j'avais une question à vous poser sur cette histoire d'euthanasie en lien avec les dons d'organes. Parce que vous savez que désormais, il y a une loi qui dit que si on ne s'est pas opposé aux dons d'organes, on est supposé être d'accord si l'on meurt. On en a profité d'ailleurs pour redéfinir la définition de la mort, hein, puisque la mort est uniquement cérébrale, évidemment, parce que si le cœur s'arrête de battre, eh bien les organes meurent aussi, donc on ne peut pas...
Donc, ils ne servent à rien.
Ils ne servent à rien, on ne peut pas les prélever. Et j'ai lu un article qui disait que dans les autres pays où la loi a été votée, donc elle était évidemment restrictive au départ pour permettre l'adoption, et puis ensuite les choses se sont élargies, notamment aux jeunes gens, et que cela avait augmenté le nombre d'utilisation des organes, donc des organes jeunes, pour les greffes, pour la façon dont aujourd'hui on soigne, c'est-à-dire qu'on prélève des organes pour les mettre sur des personnes, pour les maintenir en vie quand ils ont une grave maladie, ce qui est... j'ai pas vraiment d'avis sur la question, mais... j'ai lu un article disant qu'il pourrait y avoir un lien. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Alors, c'est clairement le cas. Il faut savoir qu'un nombre d'amendements à la loi Falorni ont été déposés visant à séparer les procédures d'euthanasie et celles de prélèvement d'organes. Tous ces amendements ont été rejetés. Aux Pays-Bas, on le fait maintenant de manière assez jugé normal, courante je ne dirais pas, mais jugé normal. C'est-à-dire qu'une personne qui est par ailleurs en bonne santé, on a aux Pays-Bas des euthanasies de jeunes personnes, notamment de jeunes filles, qui ont des problèmes psychiatriques.
On l'a vu aussi en Espagne,
oui,
cette
jeune fille, c'est pareil. Je crois qu'elle a fait l'objet de prélèvements d'organes aussi. Aujourd'hui, tout ça est parfaitement organisé, c'est-à-dire qu'on va pratiquer l'euthanasie à l'hôpital dans des conditions qui permettent de récupérer les organes dans les meilleures conditions. C'est entré dans les mœurs, et je crois qu'au Canada, c'est un chiffre que je viens de voir, le nombre de la proportion d'organes provenant de personnes euthanasiées a été multipliée par 4. Donc vraiment, il y a un marché.
Oui, alors, et on pourrait parler des bébés médicaments ou autres.
Et de tout ça, bien sûr, bien sûr.
Oui, alors, il y a un marché, et je crois qu'en plus, les personnes qui reçoivent ces organes ne peuvent pas savoir d'où proviennent les organes, et donc ne pourront pas savoir qu'il s'agit de quelqu'un qui a demandé l'euthanasie. Ce qui, pour moi, est quelque chose de très grave, parce que ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose, mais ça, c'est le principe français, c'est l'anonymat du don. Ça a des bons côtés aussi, mais je crois que dans des pays comme les États-Unis en particulier, ce n'est pas le cas. Et on peut identifier parfaitement la personne qui
donne. L'anonymat du don, c'est bien quand c'est je qui donne à toi. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui donne ce que j'ai à un autre, c'est pas du don. C'est facile de donner ce qui ne vous appartient pas.
Et ce qu'on ne doit pas faire, c'est en effet, ça c'est une règle, on ne doit pas tuer, même pour donner à quelqu'un d'autre, et même si la personne demande elle-même. Mais on a complètement évacué du débat cette question, si ce n'est que Mgr Hayet a rappelé de manière ferme que les élus qui voteraient pour la loi d'euthanasie ne pourrait plus s'approcher de la communion, à moins évidemment de demander pardon à Dieu. Mais ça, c'est quand même un aspect religieux, et la mort a quelque chose de fondamentalement religieux. Ça a été très fortement exclu du débat.
On a une idée de statistique du nombre de députés ou de sénateurs qui s'approchent régulièrement de la communion?
C'est une vraie question. Je pense que ça aura moins d'impact que les édits d'excommunication frappant la France entière sous je ne sais plus quel roi.
C'est drôle d'ailleurs ce que vous dites, Olivier, parce que le Sénat est statistiquement, les personnes sont beaucoup plus âgées et elles semblent moins enclines à voter la loi sur l'euthanasie, alors que les députés sont un peu plus jeunes et eux, ils voient ça de loin. Mais ça viendra,
Jacques Attali pensait éliminer les personnes de plus de 70 ans, en tout cas de leur en donner la possibilité.
Il est moins chaud.
Cécile, vous vouliez parler de la dénatalité.
Et oui,
en France.
Hélas, parce que nous avons appris que les naissances avaient reculé de 2,3% en 2025 et que malheureusement, sur les 5 premiers mois de 2026, la tendance se poursuit. C'est malheureusement le cas dans tous les départements français. Alors, on met Mayotte de côté, puisque Mayotte, là, le chiffre progresse. Mais sinon,
on en Mayotte.
Comment ?
On en Mayotte
à Mayotte, c'est toujours un bon mot, Olivier. Donc en 2025, il n'y a eu que 643 905 bébés qui sont nés en France. Et les statistiques nous disent, c'est l'INSEE, que depuis 15 ans, ça fait 15 ans que les statistiques et qu'il y a une baisse de la natalité, ça fait 24% depuis le dernier pic de 2010. C'est donc quelque chose de très important et qui montre combien notre pays va mal. Alors, l'INSEE dit que c'est un peu moins, ça va un peu moins vite, mais on a déjà tellement perdu. Il y a finalement très peu d'enfants par femme. Ça fait un peu plus de 1 par femme. Et ça n'est pas dû, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à une baisse du nombre de femmes en âge de procréer. Pas du tout. Ce nombre a même légèrement progressé et donc il s'agit bien d'une baisse réelle de la fécondité des femmes de notre pays. Alors il y a des zones où c'est pire que d'autres, notamment l'Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bourgogne, où là les femmes font encore moins d'enfants. Et les baisses sont un peu moins prononcées en Martinique et donc dans les dom-toms.
On peut se demander pourquoi. Il y a aussi, je crois, 12% des femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfants. Cette proportion augmente.
Elle finira par diminuer. Si toutes les femmes qui ne veulent pas d'enfants n'en ont pas, il ne restera que les gens qui veulent avoir des enfants.
Oui, en fait, on s'aperçoit, des études ont montré que les femmes qui ont 3 enfants, ou 4 ou plus, la proportion reste à peu près identique. Mais ce qui change, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui n'ont pas d'enfants, et beaucoup d'entre elles qui voudraient avoir des enfants. Alors, soit elles ont des problèmes de fertilité, soit elle ne trouve pas l'homme avec qui elle voudrait avoir un enfant. Il y a beaucoup tout de même d'infertilité subie, non voulue. Alors on se souviendra que Emmanuel Macron avait promis de faire un réarmement démographique.
Il a donné l'exemple.
Ça fait partie de ces nombreux échecs cuisants. Pour parler de réarmement démographique, c'est vouloir créer des conditions favorables, c'est vouloir aider ceux qui veulent avoir des enfants à en avoir les moyens matériels, les logements, tout cela fait un tout. Ça suppose aussi un réarmement spirituel, parce que pourquoi s'embêter à se réveiller 5 fois par nuit lorsque vous pensez qu'après cette vie, il n'y en a pas d'autre, et que finalement...
Que c'est pas bon pour la planète.
Et que j'allais le dire, que ce n'est pas bon pour la planète. Il y a quand même une sacrée convergence de facteurs qui ne sont pas favorables aux naissances.
Il y a aussi un autre facteur qui est très préoccupant, c'est la difficulté relationnelle entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Parce que les jeunes garçons, de plus en plus, alors on nous parle des mouvements masculinistes, donc ça c'est une façon de monter quelque chose qui est assez faible en épingle, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'osent plus aller vers les femmes parce qu'ils ont peur de se retrouver mis en cause, des procès, et c'est quelque chose que l'on voit particulièrement dans les zones rurales et qui vient affecter certainement ou contribuer à la dénatalité française. Et ça, c'est très grave, parce que c'est le produit des idéologies mortifères de la gauche. Alors, vous avez parlé, évidemment, de la planète, comme si la planète s'en remettra toujours. C'est l'espèce humaine qui s'en remettra pas. Mais oui, il y a des générations entières de jeunes gens qui n'osent pas faire des enfants ou qui militent. On nous les met d'ailleurs comme modèle. Le fameux garçon qui est parti dans les étoiles, dont j'ai oublié le nom, qui est l'idole des jeunes, a dit clairement qu'il ne voulait pas avoir d'enfants parce que ce n'était pas bon pour la planète. Et malheureusement, ce discours a marqué une génération. Donc, il y a donc à la fois les mouvements féministes agressifs qui ont cette conséquence sur les relations hommes-femmes, et puis le discours sur la planète.
Et puis le réarmement démographique, c'est quand même une vaste foutaise, parce que quand on, la seule chose qu'on est capable de faire pendant son mandat à ce moment-là, c'est d'inscrire l'avortement dans la Constitution, je suis pas... ou alors il est complètement idiot, ce pauvre Emmanuel Macron, ce qui n'est pas impossible, mais je crois plutôt qu'il dit absolument tout et n'importe quoi, ou alors que l'abus de certaines substances finit par lui vriller le cerveau.
Oui, la moquette, par exemple. Il ne nous reste pas énormément de temps, mais je voudrais, Cécile Montmirail, que vous nous parliez rapidement, parce qu'il nous reste quelques autres sujets à aborder, de la RATP, où on découvre le nombre et le coût des agressions quotidiennes contre le personnel.
Alors, malheureusement, la RATP ne le découvre pas vraiment, mais les choses empirent à un point tel que désormais, en tout cas, la RATP a décidé de lancer, donc le 6 juillet, il y a 2 jours, une nouvelle campagne de sensibilisation et de dissuasion sur le réseau francilien. Alors, ça fait suite à une précédente campagne dans laquelle la RATP faisait appel au civisme des gens et... Force est de constater que cette campagne n'a servi à rien, puisque les choses ont empiré. Alors, la RATP a choisi de mettre en place une campagne qui, non seulement énonce les délits qui ont été commis, mais aussi les peines qui ont été prononcées suite à ces délits, pour essayer de faire comprendre que maintenant, ça suffit. Et alors là, on est stupéfait de ce qu'on lit. Alors, je lis les slogans. Hein. Un agent insulté et visé par des crachats, une conductrice de bus menacée de mort, une agente de station frappée pendant son service. Donc voilà ce à quoi sont confrontés aujourd'hui les agents de la RATP. En 2025, c'est plus de 1300 atteintes à l'intégrité physique des agents de la RATP qui ont été comptabilisées et plus de 3000 outrages ou menaces. Donc ça a débouché, hein, c'est la RATP qui le dit, sur 1800 plaintes, puisque à chaque fois, eh bien évidemment, la RATP, la régie, va accompagner ses agents pour qu'ils portent plainte. Donc, les statistiques, le phénomène est d'une telle ampleur que la RATP a désormais des statistiques qu'elle suit, donc depuis seulement 3 ans, et donc tout ça va crescendo. Alors, évidemment, vous l'avez dit, Jeanne, pourquoi la RATP a pris les choses à bras-le-corps? Évidemment, pour protéger ses agents, mais aussi parce que ça a des conséquences économiques qui sont dramatiques, parce que les agents s'arrêtent, donc c'est des arrêts de travail généralement très longs. C'est aussi des maladies professionnelles, puisque généralement, les agents sont choqués, ont des traumatismes, des dépressions, et que donc cela augmente considérablement les coûts de l'absentéisme, comme on dit, dans l'entreprise. Alors, la RATP est aussi obligée de mettre en place des systèmes de suivi psychologique. Hein. La RATP a expliqué que leurs agents avaient accès à une plateforme de psychologues. Alors, ils ont droit à 6 consultations avec des psychologues. Ils ont aussi le droit à d'accompagnement des séances d'EMDR. Alors, c'est une méthode qui est utilisée pour surmonter des traumatismes et immédiatement après la séance traumatique. Enfin, tout ça a un coût, et un coût très, très important. Et donc, on voit bien que lorsqu'il n'y a pas d'autorité dans un pays, ça a aussi un impact économique. Alors, bien évidemment, la RATP, malheureusement, n'est pas la seule à subir ces attaques. On sait que tous les services publics, en fait, sont confrontés au même phénomène de violence, d'agressivité, qui débouche à chaque fois sur des arrêts maladie. C'est la même chose dans les fonctions publiques, évidemment l'école, l'éducation nationale, où il y a un nombre de plus en plus important de professeurs qui sont en inaptitude du fait des agressions qu'ils subissent. C'est la même chose à la poste, où les guichetiers dans les bureaux de poste sont souvent obligés d'être protégés. Là aussi, il existe des procédures d'accompagnement des agents. Et donc, c'est l'ensemble des services publics qui sont touchés, et donc de tous ces agents qui sont au service du public, mais qui donc se font frapper, reçoivent des crachats ou sont menacés dans leur vie. Donc, c'est de tout cela dont on va parler, je pense, pendant la campagne électorale. Et je l'espère que les candidats auront des mesures, et surtout qu'elles seront appliquées lorsqu'ils sont au pouvoir.
Alors, je m'en voudrais de ne pas parler quelques minutes rapides de ce que fait la GRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne. C'est une association que vous connaissez bien si vous écoutez régulièrement cette émission. Cécile Montmirail et moi-même avons l'honneur d'en être vice-présidente. La GRIF, je voudrais simplement vous signaler qu'elle suit de très près un dossier dont on parle beaucoup maintenant, à l'heure actuelle, celui du prytané militaire. Le parcours d'inscription à l'enseignement supérieur, Parcoursup, on l'a découvert. Il y a eu un article du Figaro. Je crois que l'affaire a été mise au jour par l'association créée son école de Dan Coffinier. Parcoursup éliminait d'office les candidats issus des écoles hors contrat. Alors, on peut se dire, ça vise une catégorie de scolarisés dont on se dit qu'ils ne sont pas en état de faire un parcours d'élite en mathématiques, en physique, etc., dans une école de pointe pour préparer l'entrée dans les grandes écoles de l'armée. Mais en fait, c'est bel et bien une discrimination qui est opérée, puisque les élèves des écoles hors contrat réussissent fort bien dans leur parcours supérieur, et surtout comprennent beaucoup d'élèves catholiques, et il semble assez clair que ce sont les élèves catholiques qui sont visés. Beaucoup d'écoles hors contrat, en tout cas celles qui produisent des jeunes qui veulent en faire entrer dans l'armée et devenir, officier, ces écoles sont généralement catholiques.
Donc, on veut séparer le sabre et le goupillon.
Voilà, alors comme ça n'est pas du tout du goût des gens qui croient en la justice et en l'égalité des chances, en l'égalité de traitement par la justice, il y a des démarches qui sont en cours. Déjà, le ministre de l'Éducation a dit qu'il y aurait une enquête. Le ministre des Armées, Catherine Vautrin, a annoncé vendredi dernier qu'elle diligentait une enquête administrative flash, c'est joli pour Radio Courtoisie, afin d'établir les circonstances de ces agissements individuels. On verra bien si ce sont des agissements individuels. Quoi qu'il en soit, aussi bien la GRIF que le CLJ dont nous parlions tout à l'heure, de Grégoire Pupinck, ils se sont mis d'accord si jamais il y a un problème, si jamais cette question n'est pas résolue comme elle doit l'être, eh bien la GRIF entrera en action. Autre affaire où la GRIF est en pointe, c'est celle de Crépol. Vous vous rappelez ce jeune joueur de rugby de 16 ans qui a été poignardé à l'occasion d'une, et qui en est mort, à l'occasion d'une descente des jeunes d'un, on appelle ça des quartiers sensibles, mais ce sont plutôt des quartiers ethniques. On doit le dire et on peut le dire puisqu'on a les noms des jeunes qui étaient impliqués, même si on ne peut pas les donner, c'était des mineurs. Ces jeunes avaient fondu sur une fête dans un village, au village de Crépol, petit village non loin de Romans, où on faisait une fête privée, et ils étaient venus en disant « on veut planter des blancs », racisme caractérisé. La GRIF a tenté de s'introduire dans le dossier, ça a été rejeté à chaque fois. On ne veut pas de la GRIF, on ne veut pas de la qualification de racisme anti-blanc. Eh bien, la GRIF a la chance d'avoir été désignée par plusieurs parties civiles, donc les familles et les victimes, parce qu'il y a eu d'autres blessés dans cette affaire, plusieurs ont désigné la GRIF. On va voir où ça va, parce que de nouveau, les juges y mettent des obstructions. Mais en tout cas, je peux vous dire que notre avocat Jérôme Triomphe sera présent dans ce dossier et défendra l'idée qu'il faut condamner le racisme également lorsqu'il frappe des Blancs. Puis, pour aller encore un peu plus vite, mais je vous l'avais promis, deux bonnes nouvelles venues d'Amérique latine. D'une part, le nouveau président élu de la Colombie, Abelardo de la Espriella, eh bien, lui, il a dit un chapelet en public, en visio, avec Eduardo Verástegui, l'acteur mexicain pro-vie, qui fait beaucoup pour promouvoir la récitation du chapelet. Ils ont prié ensemble, et avec toute la famille d'Abelardo, pour obtenir la victoire. Ils ont obtenu la victoire, et dès qu'il a obtenu la victoire pour cette élection présidentielle, il sera formellement investi de son pouvoir début août. Eh bien, il a fait le tour de tous les pèlerinages Mario du pays. Il a chanté la gloire du Christ roi. Il a demandé à la Vierge de protéger la Colombie, d'y rétablir l'unité et la bonne entente. Ça n'est pas du tout une démarche de division. Au contraire, il a prié pour l'unité de son pays. Et puis, quelques jours plus tard, au Pérou, Keiko Fujimori a obtenu elle aussi la victoire à l'élection présidentielle. Le même Eduardo Verástegui, armé de l'image de Notre-Dame de Guadeloupe qu'il a laissée à la future présidente, il est allé prier avec elle en action de grâce. Elle a fait la même chose. Elle a prié pour l'unité l'entente nationale dans son pays, en finir avec des oppositions qui sont souvent des oppositions violentes. En Colombie, il y a eu des guérilleros, il y a eu des ententes avec eux, notamment de la part de la gauche, qui n'ont fait que laisser poursuivre les bandes criminelles qui, d'une part, vivent de la drogue et qui, d'autre part, sème la terreur dans de nombreuses zones de ce pays. Au Pérou, vous savez, il y a eu le sentier lumineux, il y a toujours eu cette même activité guérillera fomentée et soutenue par les États communistes, et notamment par l'État communiste de Cuba, qui sévit encore, eh bien, je trouve que c'est vraiment un signe d'espoir de voir des gens qui ont une foi chevillée au corps ou pas. En fait, ce n'est pas la question. Abelardo de la Espriella, par exemple, il s'est converti lorsqu'un de ses proches est mort du Covid. Et avant, il était athée. C'est un millionnaire. Il a mené la vie qu'il a menée, mais il a maintenant une famille. Il a une famille nombreuse et il a des convictions. Il les affiche. Et puis, il affiche sa foi. Il affiche son amour de la Vierge, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné.
Peut-être proposer l'idée d'un chapelet public à certains candidats pour avril prochain.
On pourrait le faire. Nous sommes à une minute de la fin de cette émission. Un tout petit mot pour finir, Olivier Figueras.
Ma foi, je viens de dire un petit mot.
C'est le petit mot d'Olivier Figueras. Cécile Montmirail.
Eh bien, je pense que nous sommes entrés dans l'été et pour beaucoup de nos auditeurs, c'est un temps de repos. C'est important de lire, de se nourrir, d'essayer de supprimer un peu les réseaux sociaux, mais de rester fidèle à notre radio, Radio Courtoisie, qui est un espace de liberté. Donc, merci aux auditeurs de nous écouter et on leur donne rendez-vous dans un mois.
On leur donne rendez-vous très précisément le 5 août. Vous le savez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, il faut soutenir cette radio aussi matériellement. Il suffit de verser 5 euros pour avoir le droit d'accéder aux archives de la radio. C'est 5 euros bien employés, mais vous pouvez donner beaucoup plus et bénéficier d'un reçu fiscal. Toutes nos initiatives ont besoin du nerf de la guerre, que ce soit la Griffe, que ce soit le Centre Charlier, que ce soit Radio Courtoisie. Pensez-y, sans nous, il manquerait quelques couleurs au tableau, je pense. Chers amis, je vous dis au 5 août prochain. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française dirigé par Jeanne Smith, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 8 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.